De l'autre côté de la musique, une émission proposée et présentée par Michel Giardella, un rendez-vous mensuel sur l'antenne de Radio Royan. Bonjour Michel.
Bonjour.
Thématique assez variée qui rythme ce rendez-vous autour de la musique classique, à aborder aussi bien de différentes manières et une autre façon pour cette émission d'aborder justement la musique classique des époques et puis peut-être des fois des contours cinématographiques. Aujourd'hui au menu ?
Eh ben aujourd'hui au menu le Miserere.
Alors Miserere, c'est quelque chose qui nous résonne en nous, mais on va savoir dans quelques instants plus précisément de ce dont il s'agit.
Voilà, d'abord le plus célèbre.
Thou shalt wash me and I shall be whiter than snow. Thou shalt make Thank you.
Eh bien voilà un somptueux morceau d'introduction pour ce Miserere, le thème retenu pour ce rendez-vous aujourd'hui, avec bien pour illustrer de plus belle manière un peu l'origine, hein, Michel, de ce morceau, avec le compositeur qui est relié.
Voilà, c'est Allegri, bien sûr, qui a composé ce Miserere célèbre. Alors c'est le psaume 51 hein, qui est repris là, et il avait une particularité, il était chanté essentiellement au début au Vatican, au cours de la Semaine Sainte. Il était chanté après les matines, le mercredi de la Semaine Sainte et le vendredi de la Semaine Sainte, deux fois par an. Mmh. Et bien sûr, c'était un moment somptueux. Hein. Arrivé au moment du Miserere, le pape se mettait à genoux, les cardinaux étaient tous à genoux. Et au fur et à mesure du déroulement du Miserere, on éteignait toutes les bougies du Vatican. Donc ça créait une atmosphère fantastique. Et c'était, un rendez-vous européen. Tout le monde voulait entendre le Miserere d'Allegri au Vatican. Voilà, donc la partition était, bien sûr, alors on dit secrète, on en est bien moins sûr, mais donc à cette époque-là, l'empereur d'Allemagne voulut avoir cette partition. Alors bien sûr, Vatican a hésité, et puis à l'empereur, on pouvait pas dire non. On a fait venir un copiste. Le copiste a copié donc la partition, est parti et l'a donné à l'empereur. L'empereur a vu la partition, l'a donné à ses chantres, et là, ça a été la grande déception. C'était un morceau presque insipide, sans relief, etc. L'empereur était furieux, il a cru qu'on l'avait trahi, qu'on lui avait mis n'importe quoi, etc. Donc le copiste a eu très peur, hein, il a vu sa vie se jouer, enfin il s'est sauvé, il est vite rentré au Vatican. À dire vrai, ce morceau, Allegri avait écrit presque que la structure du morceau. Mais au Vatican, les castrats, l'improvisation des artistes faisaient qu'il y avait une ornementation extraordinaire. Et c'est cette ornementation qui faisait la beauté du morceau de musique. C'était pas la structure du morceau. Donc voilà un peu l'histoire de ce morceau de ce Miserere, qui ensuite, bon, s'est trouvé avec beaucoup de succès. Alors toujours, puisqu'on est dans les histoires, dans les légendes, on raconte que le petit Mozart, Wolfgang Amadeus, avait 14 ans. Bien sûr, il a entendu avec son père en voyage en Italie, avec Léopold, ils ont entendu bien sûr le Miserere. Il a écouté une fois, il est revenu deux jours après écouter une deuxième fois, et il aurait retranscrit le Miserere, donc le secret du Miserere, les mystères du Miserere auraient été résolus. En réalité, c'est un peu la légende, parce qu'on sait que Mozart était, avant d'arriver au Vatican, à Rome, était allé à Bologne, et le Padre Martini possédait une partition du Miserere. Il y en avait quand même plusieurs spécimens qui couraient l'Europe. Hein. Donc, il faut s'inventer un peu des histoires. Hein, ça fait toujours plaisir. L'histoire n'en est que plus belle.
Entretenir les légendes. Et ce Miserere qui, depuis le XVIIe siècle, a traversé les époques musicales, certains styles, et de nombreux compositeurs se sont appropriés.
Alors, je crois qu'il faut quand même dire un petit peu ce qu'est le Miserere, un peu le texte.
Donner un peu aussi, effectivement, la définition qui, déjà, littéralement, signifie, Michel.
Pitié.
Alors, un chant religieux sous forme de pitié avec un texte élaboré, traduit, donc voilà, il peut y avoir des distinctions selon les...
Voilà, le texte comprend une dizaine de lignes. Il était chanté au Vatican uniquement les strophes alternées. Il y avait une strophe chantée, une strophe psalmodiée. Mais voilà, donc on peut résumer un petit peu en quelques mots le texte. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes cieux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juste et montrer ta victoire. Voilà, le texte continue, mais voilà l'esprit du texte, c'est le pécheur face à la mort.
Alors, donc, un texte qui peut aussi avoir différents aspects en ce qui concerne après tout le côté musical, le support, et puis effectivement les compositeurs qui chacun à leur manière ont...
Oui.
Abordé de...
Voilà. Alors, le Miserere, c'est dans une époque assez austère, hein, le grand siècle. Louis XIV tenait à une grande rigueur religieuse, surtout quand il est arrivé Madame de Maintenon, hein, où là, on a fini de rigoler à la cour. Hein. Donc, tous les musiciens du grand siècle ont écrit des Miserere. Et les Miserere étaient chantés à l'occasion d'un décès d'un noble. On ne jouait pas le Requiem n'était pas composé à la cour de Louis XIV, hein. On chantait en général le Miserere. Hein. Donc, voilà, je te propose d'écouter peut-être celui du grand compositeur du roi, de Lully. Madame de Sévigné raconte dans une de ses lettres qu'elle a pleuré au cours de l'exécution de ce Miserere de Jean-Baptiste Lully.
Écoutons-le. Miserere de
Jean-Baptiste Lully,
autre version bien de ce chant religieux. Nous écoutions précédemment Allegri avec plutôt des voix d'enfants, avec le King's College Choir d'Angleterre. Et là, c'est donc des voix un petit peu plus adultes pour une autre interprétation.
Oui, alors il y a quelque chose de particulier, c'est que contrairement à dans toute l'Europe, Louis XIV n'a jamais voulu de castrat. Louis XIV n'a jamais voulu que les enfants chantent, c'était des hommes et des femmes qui chantaient dans ces offices. Alors qu'en Allemagne, jusqu'au XVIIIe siècle, pratiquement, Jean-Sébastien Bach, il n'avait pas de femmes qui chantaient. Hein. C'était les hommes qui tenaient les parties de basse et de ténor. C'était les enfants qui chantaient les parties hautes. Hein. Et quand ils commençaient à muer, eh bien, ils partaient. C'est comme ça. Bon, voilà. Donc, c'est, faut bien concevoir que Louis XIV, il était un peu particulier, mais il a jamais voulu avoir de castrat comme au Vatican ou comme à la grande mode en Angleterre. Les castrats tenaient les opéras. Hein, voilà. Donc, c'est quand même un particularisme.
Ouais, une spécificité.
Une spécificité française. Hein.
Ouais. On poursuit avec, bien, on évoquait Jean-Baptiste Lully pour une autre interprétation. On peut dire que dans l'histoire, chacun s'est aussi a donné un contour différent, puisque à partir du chant religieux, finalement, le côté instrumental est assez libre autour.
Oui. C'est la liberté totale, hein, voilà. Pourvu qu'on respecte le texte.
Voilà. Bon, d'où, effectivement, l'improvisation, des ornementations. Il y a quelque chose de très, très ouvert en dehors du texte qui est, lui, par contre, assez concis.
Hein. Alors, il a fallu arriver au romantique pour arrêter pratiquement l'ornementation. Hein. Les romantiques, eux, ils voulaient qu'on joue ce qu'ils écrivent.
Ah oui.
Voilà, c'est eux qui ont fixé pratiquement la musique, ça a été fini. Mais toute la musique baroque est pleine d'ornementation, de décorum. Hein. Mmh. Alors que les romantiques, eux, ont posé les choses. Ça a commencé avec Haydn et Mozart, hein, mais les romantiques, c'est surtout eux, ils ont exigé qu'on joue que ce qu'ils écrivent.
Mmh. Il y avait sinon un instrument aussi, un petit peu commun à différentes œuvres qui peut incarner le miséréré?
Ben, en général, il était surtout chanté. Essentiellement chanté parce que les chœurs étaient dépouillés de toute ornementation, bon, pour les voix. Hein. Donc, les instruments, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, en général, reprenaient une partie, accompagnaient une partie chantée. Mais ils étaient très discrets. Hein. Bon, c'est après, plus tard, ça a changé, hein, bien sûr. Avec la musique baroque, les miséréré ont changé. Hein. Mais je crois qu'on a écouté quelque chose, parce que c'est poursuivi.
Tout à fait, ça se poursuit encore, même au XXIe siècle. Ouais, compositeurs abordent ce chant religieux, notamment avec compositeur qui...
Contemporain.
On évoquait les Tédéum, à l'instar des Tédéum, ce miséréré aussi, c'était un chant abordé par Arvo Pärt,
voilà.
Un compositeur qui a aussi à sa manière apporté des instrumentations, on peut dire baroques, modernes de cette époque du XXIe siècle. Voilà, une autre forme, et c'est...
Austère, hein.
C'est austère, ce n'est qu'un début, par Arvo Part de ce Miserere. Effectivement, Michel, un morceau qui se développe sur environ 35 minutes, oui. Donc là, c'est juste les prémices qui laissent après augurer d'autres moments, oui, d'interprétation plus rythmée, oui, sur ce chant religieux. Et cette instrumentation dont nous parlions avec le côté un peu plus contemporain, des clarinettes, hein, oui, on entendait, oui, des sons de clarinettes, trois sons qui donnent une certaine rythmique et un pendant au chant, oui, de manière durable sur tout le morceau.
Oui, puis qui pose les questions.
Oui. Bien sûr. Voilà. Arvo Part avec The Hilliard Ensemble, enregistré assez récemment à Londres. On poursuit, eh bien, ce tour d'horizon du Miserere, pitié, par un autre compositeur.
Voilà, alors on avait Allegri qui était donc le sud de l'Italie, on va aller dans le nord, hein, et c'est un compositeur tchèque, Zelenka, qui partagea une grande partie de son temps entre Prague et la Saxe, c'est-à-dire Dresde, hein, où il vécut quand même la plupart de son temps, avec Auguste, il a été donc le musicien de la chapelle royale, d'Auguste le Fort, roi de Pologne aussi, hein, et les Auguste II et Auguste III. Or c'est amusant parce qu'à la cour, le Auguste avait épousé une protestante. Et donc, dans la chapelle royale, il y avait les catholiques qui avaient Zelenka comme musicien et les protestants, la reine avait cela. Ils ont bien vécu ensemble et tout le monde a bien cohabité. La guerre de 30 ans était finie, hein. Heureusement. Hein. Mais je veux dire qu'il y avait des exemples de cohabitation qui se sont bien faites. Hein. Bon, mais Zelenka a été un grand musicien, hein, puisque c'était quand même le musicien préféré de Jean-Sébastien Bach. Hein, donc c'est une bonne recommandation, hein,
référence.
Voilà, donc je crois que ce Requiem a été composé à 1683. On ne sait pas trop à quel ce Miserere à 1683, on ne sait pas trop pour quelle occasion, hein. Les musiciens n'étaient pas considérés comme des artistes à cette époque-là, ils étaient plutôt considérés comme des artisans, donc aller au boulot, hein, voilà, hein. Bon, donc ce Miserere est typique de l'époque baroque, hein, donc je vous propose qu'on écoute ce Miserere de Zelenka.
Voilà, puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce Miserere dans sa globalité,
voilà,
du début à la fin.
Du début à la fin.
Une vision complète.
Complète, oui. Thank you.
Thank you.
Miserere de Zelenka. On va revenir un petit peu sur la période et puis peut-être quelques notes de musique ont pu évoquer aux oreilles des auditrices et auditeurs ce thème que l'on découvre un petit peu plus précisément hein, avec la version de Zelenka.
Oui, c'est typique de la musique baroque, hein, quand même des mélismes, des quand même une évocation très riche. Bon, peut-être pas ce côté d'austérité qu'ont donné les premiers.
Beaucoup plus dépouillé.
Beaucoup plus dépouillé du début, hein. Au grand siècle de Louis XIV, les Miserere étaient d'une austérité glaciale, hein. Mais là, bon, les baroques savaient ajouter un peu de d'âme à la musique.
Voilà pour bien cette intégrale, ce qui a pu permettre de nous faire découvrir du début jusqu'à la fin, que ce thème qui apparaît au début et qui revient à la fin.
La fin, pour, c'est ça, hein, pour clore l'œuvre. Oui. Voilà.
Miserere par Zelenka. Merci Michel Giardella pour nous avoir fait découvrir ce panorama autour de ce chant religieux. Certaine austérité, une pitié qui a traversé les siècles depuis le 16e d'Allegri pour arriver jusqu'au 21e d'Arvo Pärt. Hein. Ça a été un balayage assez large. Et on vous retrouve pour une autre thématique, la prochaine émission hein, qui va concerner un peu aussi les frimas de l'automne et les compositions qui ont été assez florissantes à beaucoup d'époques.
Oui, la chasse, bien
sûr. À très bientôt, merci.